la dernière partie de la Grande Table. Caroline Brouet.
L'ubérisation est sur toutes les lèvres, avec évidemment des acceptions différentes. Une chose est sûre, Uber est devenu l'emblème d'un nouveau modèle économique qui s'est mis en place il y a à peine 6 ans et qui a donné son nom à un processus en cours dont on croyait au début qu'il marquait une rupture avec le capitalisme et qui s'avère, avec un peu de recul, bien plus complexe. Hier, la société Uber France a été condamnée à une amende de 800 000 euros, dont la moitié avec sursis, pour son application controversée de transport entre particuliers Uber Pop, suspendue depuis juillet en France par le géant américain. Le 22 juin prochain s'ouvrira le procès de l'application française Hitch pour exercice illégal de la profession de taxi. Et dans la nouvelle loi pour une république numérique, votée le 2 mai, certaines mesures s'attaquent au modèle Airbnb en obligeant les particuliers à s'enregistrer en mairie avant de louer leur logement. Est-ce à dire que les promesses de partage, d'économie collaborative ont été trahies ? Ou bien est-ce cette nouvelle organisation sociale qui pose problème dans ses fondements même ? De son côté, la Commission européenne est venue au secours de l'économie collaborative en réaffirmant le 2 juin qu'elle était une aubaine, une innovation nécessaire, une opportunité, je cite la Commission, pour les consommateurs et pour les entrepreneurs, les gens sans emploi et les acteurs professionnels. Ces différentes positions reflètent bien la controverse en cours. Faut-il regarder l'ubérisation comme un progrès social ou comme une régression ? La nouvelle économie collaborative repose-t-elle sur une philosophie coopérative ou capitaliste ? Au-delà du débat sur la façon de penser ce qui nous arrive, n'est-on pas, de fait, entré dans une nouvelle ère concernant les relations de travail ? Nous avons souhaité organiser une discussion entre nos deux invités aujourd'hui. Diana Filipova, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondatrice de WeShare. WeShare, c'est quoi ?
C'est un think tank, une communauté internationale qui réfléchit justement sur les évolutions des modèles économiques et sociaux, notamment sur l'économie collaborative.
Voilà pourquoi vous êtes là. Absolument. Vous êtes responsable des relations avec les startups de Microsoft. Vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « Société collaborative, la fin des hiérarchies » qui est apparu l'année dernière aux éditions Rue de l'Échiquier. Et vous participez au Festival de l'innovation Futur en scène, dont on est partenaire, qui se tient à Paris et dans toute l'Île-de-France jusqu'au 19 juin. Et face à vous se trouve Benjamin Coria, bonjour.
Bonjour.
Économiste, professeur à l'Université Paris 13 et membre des économistes atterrés. Peut-être devrions-nous partir par une forme de définition des principes sur lesquels repose l'économie collaborative. Moi j'ai un peu le sentiment que c'est comme Internet en fait, l'économie collaborative aujourd'hui. C'est-à-dire que ça repose sur deux visions des choses qui sont différentes selon les usages qu'on va en faire. Il y aurait une vision, disons, libérale, et puis une vision plutôt centrée sur les communs. Diana Filipova, est-ce que c'est comme ça que vous pourriez définir les choses aussi ?
Vous avez tout à fait raison. Il n'y a pas une définition de l'économie collaborative comme il n'y a pas une définition de l'évolution technologique comme il n'y avait pas une vision d'Internet. C'est chaque fois qu'il y a de nouvelles tendances et de nouveaux modèles qui apparaissent, il y a tout un tas d'acteurs qui vont voir les choses d'une façon différente et qui vont souhaiter aussi, en termes de futur, des modèles un peu distincts. On peut effectivement résumer votre proposition
très
juste. Il y a deux modèles. Il y a effectivement une vision qui dit que l'économie collaborative va casser des lobbies établis. Elle va amener du pair à pair. Et de toute façon, on ne devrait pas le réguler, on ne devrait pas l'encadrer parce que c'est la loi du libre marché et tout devrait fonctionner à l'initiative privée des acteurs. Évidemment, ça c'est la vision extrême de l'autre, la vision finalement de la prolongation un peu néolibérale qu'on connaît déjà. Uber probablement se trouve dans cette vision-là. De l'autre côté, vous avez les défenseurs des communs, les personnes qui parlent du travail digital, qui voient en fait que ces évolutions technologiques et les innovations aussi socio-économiques vont apporter un certain nombre de nouveaux risques, notamment un, à mon avis, dont on va parler aujourd'hui, c'est le risque sur le travail, puisqu'il va casser les fondements du salariat traditionnel en créant d'autres façons de travailler, que certains appellent le travail collaboratif, que d'autres appellent le travail à la demande. Et donc là, pour moi, on ne devrait plus parler vraiment d'économie collaborative et de sociétés collaboratives qui quand même reposent sur un certain nombre de valeurs telles que le partage de la valeur, la distribution du pouvoir et la distribution de la gouvernance, et le distinguer d'une économie à la demande qui est tout simplement une cassure apportée aux relations de travail salariées telles qu'elles existent et le remplacement par des prestations de libre-service, comme on les appelle, qui sont en fait complètement hors de l'encadrement par le Code du travail et qui présentent de nouveaux risques.
Des deux côtés, finalement, c'est le libéralisme qui s'impose, finalement, si je comprends bien, dans votre alternative.
Bah, il ne s'impose jamais de lui-même, hein. C'est la place qu'on veut bien lui laisser.
Vous le dites, soit effectivement, ça devient un grand marché pour tout le monde, soit au contraire, ce qui existe va être détruit. Donc, j'en conclue que c'est un peu la même chose, non ?
Benjamin Correa.
Écoutez, moi, je pense qu'il y a plusieurs modèles aujourd'hui qui se développent sous le nom d'économie collaborative et des modèles qui ne sont pas du tout les mêmes et qui peuvent même être opposés les uns par rapport aux autres. C'est pour ça que les questions de définition, de caractérisation, etc. sont essentielles. Alors moi, je vais prendre deux exemples opposés, puis après, ça me permettra de rebondir sur ce qu'a dit, Diana. Deux exemples opposés, parce que à un pôle, si vous voulez, on a la vraie, ce que j'appelle moi, la vraie économie collaborative, la vraie économie du partage, l'économie du commun, dont je suis un des défenseurs convaincus, et je pense qu'il a beaucoup d'avenir. Je pense qu'il y a des modèles économiques possibles autour du commun. C'est pas forcément du gratuit. Bon, alors les exemples qu'on peut donner, c'est bien sûr Wikipédia, c'est OpenStreetMap, qui est le concurrent de
Google.
De Google pour ce qui est de la géolocalisation, mais qui, par exemple, dans les pays du Sud, ouvre sur des tas de choses, la construction de cadastres, la construction de plans qui n'existent pas, des systèmes de transport. Bon, voilà. Donc ça, c'est des outils extrêmement puissants de l'économie collaborative.
De service.
C'est une économie de service, oui, mais vous avez aussi le sel de Guérande, qui est produit sur la base d'un commun. C'est un marais salant qui est une ressource partagé et des gens qui en vivent et qui l'exploitent. Vous avez la pêcherie de Sanary dans lequel il y a des règles d'accès pour le prélèvement du poisson et les gens en vivent. C'est pour ça qu'il y a des modèles économiques autour du commun. Bon, ça c'est à mon avis des choses qu'il faut protéger, développer, etc. Et puis à l'autre bout, et là je vais être à la fois d'accord et pas d'accord si je peux dire avec Diana, à l'autre bout on a Uber. Alors, je suis pas tout à fait d'accord, enfin je suis même pas du tout d'accord. Quand on dit ça va casser le salariat, c'est du travail indépendant, etc. J'ai presque envie de dire mon œil, parce que si c'était ça, ça serait trop beau. Parce qu'en fait, dans le cas d'Uber, par exemple, on reconstitue toutes les caractéristiques de la relation de subordination, du contrat de subordination qui est au cœur du contrat de travail. On l'a bien vu avec la loi El Khomri. Le cœur du contrat de travail, c'est la relation de subordination. Et voilà pourquoi d'ailleurs la loi El Khomri est totalement rétrograde. C'est que, au lieu d'aller dans le sens de l'autonomie, etc., elle renforce la relation de subordination en permettant de licencier plus facilement, en permettant de sous-payer les heures supplémentaires, etc. Voilà pourquoi cette loi présentée comme moderne est parfaitement rétrograde. Elle va parfaitement à contresens. Bon, alors, qu'est-ce que fait Uber ? Uber, il réintroduit une relation de subordination complète. Regardez sur la charte, regardez sur les sites d'Uber, la charte du conducteur Uber. Il y en a 40 pages. Je veux dire, c'est pire que les règlements intérieurs des boîtes les plus rétrogrades de la planète. Tout en reportant sur le pseudo-salarié, c'est-à-dire entrepreneur individuel, tous les risques. Le risque de revenus, puisqu'il n'y a plus de salaire, le risque de protection sociale, etc. Donc, comment dire, le modèle Uber, c'est vraiment un modèle d'attaque pour laminer un ensemble de protection sociale, un ensemble de relations salariales, dont je ne suis pas un défenseur acharné. Oui. Là-dessus, on va sans doute reconverger à nouveau. Oui. Mais à condition que la pseudo-économie collaborative ne les reconstitue pas en pire. Or, c'est un peu à ça qu'on assiste. Voilà, donc moi j'ai fini, si vous voulez. Il y a plusieurs modèles, il faut bien faire attention. La taxonomie est très importante.
Oui, il y a plusieurs modèles, mais vous avez quand même dit, Benjamin Correa, la vraie économie collaborative, comme s'il y avait une vraie et une fausse.
Ah oui, bien sûr, parce que pour moi, Uber, c'est une
économie... Comme s'il y avait un esprit dévoyé.
Pour moi, Uber, c'est une économie de prédation qui s'habille du langage du coopératif.
Bon, les choses sont claires. Diana Philippova.
Alors, moi, je trouve qu'on est d'accord, puisque j'ai écrit un article qui appelle ce que vous appelez, en fait, cette nouvelle nouvelles relations de pseudo-salariat. Moi, je parle de néo-salariat. Évidemment, je suis d'accord avec vous, c'est des relations qui sont contraintes, mais par d'autres liens de subordination que le lien de subordination classique, qui est permis en fait par la nouvelle technologie. Au lieu de contrôler grâce à un contrat de travail, vous allez avoir une plateforme avec une notation, avec une charte qui est envoyée au chauffeur Uber, avec une déconnexion des services du chauffeur Uber lorsque sa notation passe outre un certain niveau. Donc, il y a effectivement une reconstitution totale de la notion de salarié que j'appelle moi le néo-salariat, sans qu'on apporte là une protection et une solidarité équivalente. Donc là, on est d'accord. Je suis également d'accord sur la loi El Khomri avec vous, puisque elle passe non seulement à côté des nouvelles, on va dire les nouveaux visages de la subordination, comme les avait appelés Alain Supiot déjà dans les années 2000, qui sont beaucoup plus insidieuses et qui sont hors contrat de travail, qui sont hors relation juridique. Et ça, on ne les pense pas. C'est encore un impensé, à la fois du point de vue de la recherche et aussi du point de vue de la loi. Donc là, on est dans un terrain un peu vague sur lequel il y a beaucoup, beaucoup, à mon avis, d'opportunités pour construire une vraie vision du travail au 21e siècle. Et ce que la gauche ne fait pas du tout, elle n'est pas prête à faire, puisqu'elle elle nous applique la flexi-sécurité, d'ailleurs sans la sécurité, seulement la flexibilité, telle qu'on l'a pratiquée il y a 10 ans et qui aujourd'hui n'est plus du tout adaptée aux nouveaux enjeux économiques qui sont posés. Donc moi, je suis d'accord avec ça. Après, l'économie collaborative, la vraie ou la fausse, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment la question. Alors, WeShare, Arthur Degrave, notre rédacteur chef du magazine WeShare, a écrit un article qui a provoqué beaucoup de bruit. L'économie collaborative, c'est fini. Où il disait,
ça a 6 ans. Ouais, ça. Enfin, l'économie collaborative, pas les salles de Guérande. L'économie collaborative née liée intrinsèquement au numérique.
Ce qu'il disait, en fait, c'est plutôt le terme que nous, on espérait porteur de nouveaux modèles, voilà, porteur de nouvelles visions.
L'illusion d'une économie collaborative en substitution au capitalisme, c'est fini. Et en ce sens, oui, il a raison.
L'ubérisation a tué, en quelque sorte, enfin, le terme d'ubérisation, qui a polarisé complètement le pour et le contre néolibéral, anti-néolibéral, a complètement tuer cette économie collaborative. Et donc il conclut l'article, et je suis complètement d'accord avec ça, c'est qu'il faut maintenant s'interroger sur la vraie question qui est celle de la protection sociale et du futur du travail. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter de polariser le débat autour Uber ou pas collaboratif, anticapitaliste ou pro-capitaliste. Ça, je pense qu'on est moins d'accord sur cette troisième question, et de se poser la question, quel travail pour demain? Quelle protection sociale pour ces travailleurs à la demande qui sont aujourd'hui complètement exclus de la solidarité nationale et de la protection? Et comment on construit ça, tout simplement? Et ça, c'est un chantier, mais absolument gigantesque. Mais on n'est même pas en train d'aborder.
Pourquoi il faut abandonner, finalement, quand même, le combat pour cette économie du partage? Est-ce que tout est vraiment terminé? C'est ce qu'on a l'air de dire, qu'il faut passer à autre chose.
Surtout pas
Par exemple, vous parliez de la pêche, vous parliez du sel de Guérande. Est-ce que vous pouvez nous dire un autre exemple sur Terre, peut-être, où ça fonctionnerait et où ça pourrait quand même donner au moins une piste de réflexion, que ce soit pas enseveli tout de suite par le marché?
Mais écoutez, je reviens de Grèce. En Grèce, aujourd'hui, se développe un certain nombre de choses qui, à mon avis, relèvent absolument du commun. C'est-à-dire que en dehors des hôpitaux, etc., qui sont en crise complète, se constituent des associations citoyennes dans lesquelles interviennent des sages-femmes, des infirmières, etc. Mais pas seulement. Et qui mettent en commun des ressources médicales. De compétences, d'un côté. De l'autre côté, des médicaments. On appelle les gens des quartiers, pas seulement des quartiers, à mettre ensemble leurs médicaments. Et ensuite, on les redistribue de la manière la plus intelligente possible à ceux qui en ont besoin, en respectant des ordres de priorité. Le cas échéant, bien entendu, en payant le prix de ces médicaments. Bon, donc, voilà, on a des formes ici de résistance, si je peux dire, aux catastrophes qu'a fait l'Union européenne en Grèce. Bon, et c'est une forme de modèle économique, c'est un modèle économique de résistance. Mais Guérande, etc., c'est des modèles économiques pleins. Et je donne juste un dernier exemple, autour de la question des logiciels libres. On peut construire toutes sortes de modèles économiques par lesquels les concepteurs de logiciels libres, moyennant le fait que donnent un droit d'usage sur leur logiciel qui reste libre, qui leur permet de faire du logiciel libre toute la journée, pas seulement pour des hobbies. Donc, il y a des vrais modèles économiques qu'il faut construire autour de l'économie.
Non, mais c'est pour
partage.
Ça qu'effectivement, la comparaison avec ce qui s'est passé avec Internet, finalement, est valable, parce que c'est aussi ce combat-là, le combat aujourd'hui des oligopoles, des mastodontes, qui ne sont pas du tout dans cette vision-là ou cette ambition. Là, du logiciel libre, on le retrouve manifestement. Uber serait aujourd'hui comme Amazon, si on veut établir le même parallèle. Mais Diana Filipova, du coup, comme Benjamin Coria disait, il est essentiel de revenir à la définition. Malgré tout, en sortant du vrai et du faux, en effet. Malgré tout, il y a un certain nombre de principes sur lesquels vous pourriez réfléchir quand vous travaillez sur le néo-salariat, qui sont, je reprends des définitions que vous-même donnez, hein, l'horizontalité des structures, la démocratisation des compétences et le passage de la propriété à l'usage. Sur cette base-là, qui ne fait pas débat, qui est vraiment la définition même du principe de l'économie collaborative à l'heure du numérique, comment réfléchir à une vision plus optimiste du passage du salariat au néo-salariat?
Alors, optimiste ou pas optimiste, j'en sais rien, parce que le passage, c'est jamais un chemin facile. Et aujourd'hui, on voit très bien la transition technologique, par ailleurs, est en train de détruire massivement les emplois de classe moyenne, c'est pas du tout pacifique. Ce que vraiment nous intéresse, c'est la diversité des modèles dans la zone grise qu'il y a entre le bien et le mal. En fait, le bien et le mal, ça nous intéresse beaucoup moins que toutes les initiatives qui sont en train de naître dans cette zone grise.
Mais pour aller plutôt vers le bien.
Pour aller vers le bien. Alors, j'en sais rien, parce que la moralité, l'économie, ça fait jamais très bon ménage. Mais réfléchissons, par exemple, juste sur quelques exemples auxquels je pense. Par exemple, Hitch, peut-être que vous en avez parlé, c'est un service de covoiturage entre jeunes qui se fonde sur
entre
le partage...
Entre 22h et 5h du matin.
22h et 6h du matin, qui se fondent sur le partage des frais, et qui, aujourd'hui... lui aussi est en attente d'une décision le 22 juin et qui milite, qui ont vraiment un engagement vers un modèle alternatif à celui de Uberpop. Et ils se positionnent comme étant complètement éloignés du principe illégal d'organisation du taxi d'Uberpop. Ensuite, il y a...
Donc ils ne sont pas salariés, ils sont indépendants en l'occurrence, oui, puisque oui, c'est des...
Non, mais c'est compliqué.
Non, mais deux choses.
Donc je pense que déjà, il faut essayer d'aller regarder de plus près en quoi Hitch, par exemple, se différencie d'Uberpop. Déjà, c'est la première chose. J'ai pas de réponse, forcément, mais en tout cas, j'ai quelques éléments de réponse, mais pas tout. La deuxième exemple auquel je réfléchis, qui est à la fois une start-up et qui essaye d'avoir un modèle de redistribution du pouvoir et de l'actionnariat, c'est La Ruche qui dit oui. Vous connaissez, je pense.
C'est, mais peut-être pas tous les auditeurs, il est toujours bon.
Alors, La Ruche qui dit oui, c'est une start-up qui fonde des ruches, donc, où vous pouvez commander à proximité des produits bio alimentaires qui sont avec une charte très claire de redistribution de la valeur envers les agriculteurs pour les favoriser.
Et qui rapproche les producteurs
exactement.
Des consommateurs.
Donc effectivement, c'est une plateformisation de la distribution par rapport aux AMAP qui sont plus proches des ce qu'on appellerait les communs. Donc c'est un peu entre les deux. Et aujourd'hui, ils réfléchissent à comment on fait évoluer le modèle vers une redistribution donc de la gouvernance et des impliques dans la communauté, mais aussi de la valeur pour les faire participer dans l'actionnariat. Et en fait, là, si on va creuser un peu loin, c'est très compliqué parce que le état de droit, notamment sur la distribution des actions, passe complètement à côté de l'économie contributive, c'est-à-dire celle qui est hors du salariat. Par exemple,
l'économie contributive, c'est pas l'économie collaborative.
Franchement, sur les mots et sur la taxonomie, je pense que c'est pas contributive, c'est la contribution, c'est le fait de contribuer à la production de valeur.
Oui, d'accord.
Collaborative, ça peut être contributif ou pas.
C'est juste une précision.
Bon, juste
Benjamin Coria.
Oui, deux mots. Moi, je raisonne absolument pas en termes de bien et de mal, de gris, de blanc et de noir. Je raisonne en termes de modèle économique. Oui. Et je dis qu'il y a des modèles économiques qui sont des modèles économiques qui sont sains, qui garantissent que les créateurs de valeur retrouvent la valeur qu'ils créent. Bien, et il y a des modèles économiques qui sont des modèles prédateurs, c'est-à-dire des modèles économiques dans lesquels la valeur créée par les uns est appropriée par les autres. Donc c'est pour ça, et ça doit rentrer dans la discussion, sinon je sais pas ce qu'on fait. Bon, donc Uber, Apple, Google, Amazon, etc., c'est les prédateurs, c'est-à-dire c'est des gens qui se saisissent de la valeur créée par l'ensemble de la communauté des usagers pour se l'accaparer. De surcroît, on n'est pas dans le bien et le mal là, on est dans l'analyse économique. De surcroît, ce sont des gens qui s'arrangent pour ne pas payer d'impôts parce qu'ils sont basés dans les paradis fiscaux. Alors, toutes ces grandes compagnies du futur, etc., ce sont des compagnies qui sont basées sur la fraude légale. Il y a un vrai problème. Bien. Et enfin, ce sont des compagnies qui s'arrangent d'une manière générale vis-à-vis des gens dont elles extraient la valeur, pas de leurs salariés, hein, pour pas payer de charges sociales. Donc on va dans quelle société là? On va dans une société dans laquelle on a des modèles économiques qui sont les modèles des grandes compagnies de demain, d'accord, qui ne contribuent pas aux dépenses publiques, tout en embauchant des tonnes d'ingénieurs formés sur l'argent public, qui ne payent pas les gens. Une partie des gens qui créent la valeur. Bon, voilà. Alors, c'est pour ça que, à côté de ça, il y a des modèles qui, eux, sont viables. et qui sont basés sur les plateformes, etc. Alors, Diana prenait l'exemple de La Ruche qui dit oui. J'ai pas d'état d'âme avec La Ruche qui dit oui. Je veux dire, je pense pas que c'est de l'économie des communs, hein, au sens où Guérande. Mais c'est des entreprises plateformes.
Il peut pas y avoir de prédateurs là, par exemple.
Voilà, c'est pas des prédateurs. Hein. La Ruche qui dit oui, c'est
pas des prédateurs.
Non, ça c'est des nouvelles formes des entreprises capitalistes, mais j'ai presque envie de dire des entreprises capitalistes propres, normales. Hein. Ça veut dire que elles ont une activité d'utilité sociale, elles rapprochent des producteurs des consommateurs.
Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Pourquoi dans un cas c'est comme ça, dans l'autre?
La prédation. C'est-à-dire.
Oui, de quoi dépend la prédation?
Alors, la prédation, c'est extorquer la valeur sans payer de charges sociales, hein, bon, ou l'équivalent, et ne pas payer d'impôts. C'est absolument pas le cas de La Ruche qui dit oui. Hein, c'est absolument pas.
J'irais dans votre sens, parce que ça serait intéressant d'interroger sur Uber comment ils ont conquis les marchés, en fait. Alors là, il y a un très long reportage qui est sorti dans Le Guardian, donc pour nos lecteurs anglophones, qui pourrait être très intéressant. Comment ils arrivent sur un marché? Ils recrutent en général des gens qui sont plutôt banquiers. Ou qui ont travaillé en gros dans la finance. Ils connaissent très bien la tuyauterie juridique et financière. Ils arrivent sur le marché, en fait, ils prennent des vélos et ils vont faire le tour de la ville pour recruter des chauffeurs. Une fois qu'ils ont une masse suffisante qui est constituée, ils leur garantissent, ils leur distribuent des téléphones portables gratuits, des iPhones, et ils leur garantissent, attention, tenez-vous bien, un revenu minimum horaire. C'est-à-dire que vous conduisiez ou pas, que vous soyez immobile ou pas, vous allez gagner 25 pounds, c'était le cas de Londres, par heure. Ensuite, avec ça, donc, ils attirent forcément, parce que 25 pounds, c'est pas ce que gagne un black cab, et en plus, ils n'ont pas besoin de passer les mêmes licences. Ils attirent une masse et ils constituent un volume absolument énorme sur le marché, qui va concurrencer les black cab, par exemple. Et donc, ils vont du coup créer ce qu'ils appellent la liquidité. La liquidité, c'est quand même quelque chose qui relève du secteur financier. En fait, ils vont calquer ce qui existe sur les marchés financiers dans les flux physiques. Et une fois que c'est établi et que les chauffeurs arrivent en masse et qu'ils vont gagner beaucoup plus d'argent, en général deux ou trois fois plus que les black cabs, ils vont tout d'un coup diviser par deux, ou un peu moins, peut-être moins 30% la rémunération, donc en fait ce que vous payez quand vous prenez un Uber, ils vont augmenter la part qu'ils perçoivent sur les chauffeurs. Donc là où ce que je capte prédateur, effectivement, quand on regarde cette stratégie d'une façon sans état d'âme, c'est très objectivement, effectivement, c'est arriver sur un marché, mettre un certain nombre d'attentes et ensuite, sans aucun préavis, unilatéralement, modifier ces attentes-là. Et donc en fait, mettre de l'insatisfaction, parce que c'est ça qu'on perçoit dans l'interrogation et dans les enquêtes auprès des chauffeurs Uber, de l'insatisfaction et de la peur, mais en même temps, ils sont dépendants. Donc en fait, création d'une dépendance, donc l'impossibilité finalement d'aller sur un autre réseau. Ouais. Donc si on analyse ça très froidement, on ne peut pas appeler ça une stratégie capitaliste normale. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises capitalistes qui ne voient pas ça comme une stratégie capitaliste normale. Voilà.
Oui. Benjamin Coria.
Non, mais sur ça, moi, je suis à peu près d'accord. Donc, si on continue dans la logique qui est celle que j'essaye de suivre, on a déjà identifié trois modèles. Hein, on a le modèle de, j'ai envie de dire, du commun, mais avec sa base économique, hein, Guérande, Wikipédia, bon, etc. Bien, on a le modèle du prédateur. Il faut encore rajouter dans le cas d'Uber que pour s'assurer une flotte minimum capable de concurrencer les taxis pour pouvoir ensuite les détruire, parce que c'était quand même l'objectif, on les payait même s'ils travaillaient pas, à condition qu'ils soient connectés. C'est-à-dire que les gens puissent dire « Ah tiens, il y a un Uber dans chaque endroit, j'ai pas besoin du taxi ». Bon, et effectivement, après, au bout d'un certain moment, on a supprimé, évidemment, le fait qu'ils étaient rémunérés. Vous voyez, donc on a créé artificiellement une concurrence. D'ailleurs, je voudrais dire un petit mot.
Restez devant le micro, peut-être, pour dire un petit mot.
Alors, pardon,
c'est
vous
mieux,
avez raison.
Quand vous entend.
Je voudrais dire un petit mot sur la stratégie d'Uber. Bon, c'est une stratégie qui de ces firmes, en général. C'est une stratégie qui est basée sur le modèle économique, on en a largement parlé, mais aussi sur des kilomètres, passez-moi l'expression, de cabinets d'avocats qui exploitent systématiquement toutes les failles et qui font durer au maximum, et une stratégie de communication qui est indécente. Alors, je ne peux pas m'empêcher de ne pas dire ça, je vais le dire. Savez-vous quelles sont les deux dernières recrues d'Uber dans sa stratégie de communication?
Diana Filipova le sait sans doute, mais non.
Eh bien, moi je vais vous le dire, c'est l'ancienne commissaire européenne à la concurrence. Hein, l'ancienne commissaire européenne à la concurrence a été recrutée par Uber. Et de la même manière, a été recrutée dans sa stratégie de communication par Uber, l'ancien chef de cabinet des transports du ministère en France. Bon. Donc vous voyez, on est vraiment dans des situations...
Quel ministre?
Je ne sais plus lequel. Le nôtre.
Hein. Ah, le nôtre.
Un des très récents.
De gauche, donc.
Voilà. Alors... Il y a un dernier point, si on raisonne sur... Oui, de gauche, comme vous dites. Si on raisonne maintenant sur les modèles, dans le cadre Hitch, alors c'est un petit peu plus compliqué, hein, et je cache pas que j'ai des étapes dans le tas d'Hitch, hein, pour le caractériser. Pourquoi? D'abord, c'est pas du covoiturage, parce que le covoiturage, c'est moi, chauffeur, j'offre à quelqu'un une place, moyennant contribution ou pas, et c'est le chauffeur qui décide. Hitch, c'est pas du covoiturage, parce que c'est...
Le client fait payer au chauffeur.
Qui cherche quelqu'un et qu'il trouve. Alors
c'est pas
pourquoi
on
n'est pas dans le covoiturage. Hein. Faut bien faire attention à ça. C'est pour ça que les définitions importent. Bon, par contre, là où j'ai des états d'âme, je le dis, c'est que c'est un service de nuit, peu cher, qui est utilisé par des gens pour lesquels le service public n'existe pas, parce que c'est de nuit, et pour lequel les taxis sont hors de prix. Donc moi, je trouve que là, il y a des choses à faire. C'est-à-dire, il faut trouver la réglementation qui permet à des failles de l'offre publique ou de l'offre privée d'exister. Donc vous voyez, je suis...
C'est pour ça que WeShare est là. Voilà. Des think tanks qui réfléchissent.
Voilà, exactement. Là, il y a des espaces à trouver.
Pour penser, parce qu'effectivement, il y a des choses à faire. En fait, en termes de régulation, mais Diana Filipova, ce qui est très compliqué quand on vous écoute l'un et l'autre, c'est à quel point on voit que c'est presque du cas par cas. Certaines entreprises font comme ça, certaines plateformes font comme si...
C'est très difficile.
C'est aussi pour ça que la Commission européenne dit il faut croire en l'innovation, c'est une aubaine, et que chaque pays européen prend des initiatives différentes. Par exemple, l'Espagne interdit Uber, alors que la Belgique, la France, l'Allemagne et les Pays-Bas encadrent l'activité, etc.
Berlin aussi interdit Uber.
Moi, j'ai un problème avec Uber.
Sortons d'Uber.
À chaque fois, on finit par parler que de Uber.
Oui, c'est vrai. En plus, vous avez commencé par dire en sortant d'Uber.
Alors, moi, je veux juste ne plus parler d'Uber et parler des gens que Uber recrute. Hein, et quand vous allez voir les gens que Uber recrute, et moi, je les connais parce que je prends souvent Uber pour discuter avec les chauffeurs, c'est souvent des personnes qui viennent de banlieues, qui sont souvent extrêmement intelligentes et qui ont des diplômes et qui ne trouvent pas de travail sur le marché du travail, qui sont exclus du marché du travail. Et moi, j'adore discuter avec elles parce qu'elles ont toutes les qualités pour être recrutées par n'importe quelle entreprise si elles en avaient les bons diplômes. Mais elles l'ont pas. Parce que nous sommes dans une crise aujourd'hui terrible de l'économie et de la société, également sur le marché de l'emploi, qui fait qu'elles ne peuvent pas trouver preneurs de leurs qualités. Et donc Uber, évidemment, ils ont très bien compris ça et ils se mettent dans ce terrain-là. Mais ce que ça montre, c'est qu'il y a un problème beaucoup plus structurel et profond de la société française, c'est notre capacité de formation et c'est notre capacité d'inclusion même de ceux qui en ont les capacités et les talents.
Oui, ça, c'est vrai.
Et à Londres, c'est exactement la même chose. Ceux qui vont être recrutés, c'est des paquis qui n'arrivent pas à trouver du travail parce qu'ils sont discriminés ou parce que leurs compétences entre guillemets ne correspondent pas. Il y a des docteurs, il y a des développeurs informatiques qui arrivent d'Inde qui n'arrivent pas à trouver du paquis.
D'où cette réflexion de tenir compte de ce phénomène-là aujourd'hui.
Donc moi,
il
faudrait arrêter en fait de parler que de Uber. Il faut se poser, à mon avis, des questions très précises. D'une part, c'est celle de la régulation. Aller voir très précisément ce que ça veut dire, un réseau pair à pair, comment ça fonctionne, quelles sont les obligations, quels sont les risques aussi dans la relation, les risques notamment de sécurité s'ils conduisent trop longtemps, etc. Ça, c'est des questions extrêmement terre à terre, micro, où là, il faut réfléchir d'une manière pratique. Et d'autre part, il y a des questions très macro et qui ne sont pas économiques, qui sont idéologiques. Celles notamment de la vision du travail pour le 21e siècle.
Dans quelle société voulons-nous vivre, disait Benjamin Coria.
Dans quelle société nous voulons vivre, c'est quoi le travail indépendant? Comment est-ce qu'on organise les conditions juridiques pour que ce contrat de travail avec sa contrainte de subordination qui est complètement liée à l'organisation capitaliste industrielle de la seconde révolution industrielle soit remplacée par un contrat de travail qui permette à la fois la flexibilité et la sécurité des travailleurs de demain. Oui. C'est pas la flexi-sécurité au sens où on l'entend années 90, mais une véritable adaptation, donc l'autonomie.
Pourquoi ça serait pas plus simple de lutter contre les prédateurs?
Est-ce qu'il n'est pas plus simple de lutter contre les prédateurs? Mais c'est toujours une stratégie défensive. On a besoin de passer dans une stratégie offensive où on propose des choses, on crée de nouveaux modèles, au lieu d'être tout simplement en réaction permanente à ce que fait un prédateur, on va dire, sur un marché ou une entreprise. Parce que là, en fait, on se fait complètement prendre en étau entre toutes ces attaques. Donc c'est la pire position, c'est celle de rester sur sa chaise et de dire « Ah bah Uber c'est mal, Uber c'est bien ». Et c'est ce que fait aujourd'hui la gauche. Et c'est très confortable parce que ça évite de ne pas poser les vraies questions qui sont celles « C'est quoi pourquoi le travail au XXIe siècle, comment on réforme la sécurité sociale, comment on réforme le code du travail. Et voilà, c'est juste un.
Enfin, Benjamin Coria.
Non, moi je pense qu'il faut absolument lutter contre les prédateurs, je pense qu'il faut absolument les mettre au pas, je pense qu'il faut que absolument que
ça
Airbnb...
Ça veut dire quoi, comment
Airbnb, ben voilà, ben, c'est-à-dire on n'autorise pas l'activité de Airbnb si Airbnb ne respecte pas la règle qui fait que les gens qui offrent des appartements doivent d'abord se déclarer. Hein, ce qu'ils ne font pas,
et
Airbnb a dit c'est pas notre rôle, bah si c'est pas votre rôle, bah vous sortez du marché, parce que vous embauchez des gens qui sont, vous embarquez dans une offre, des gens qui sont en situation illégale, je veux dire, c'est trop facile. Donc oui, il faut lutter contre les prédateurs.
Ah, Airbnb, il n'y a pas tellement de prédateurs quand même, si on
parle d'Airbnb. Ah si, il y a aussi parce de la prédation justement dans cette mesure-là, c'est-à-dire dans la mesure, non, dans la mesure où...
On ne peut pas comparer quelqu'un qui loue son appartement à un chauffeur de taxi Uber.
Oui, mais les hôteliers...
Oui, mais oui,
c'est
de la prédation, c'est de la concurrence déloyale. Hein. Je veux dire, la commission qui est pour la concurrence libre et non faussée devrait s'intéresser à ça. Bon, donc il faut introduire de la réglementation. Alors moi, je ne dis pas du tout, hein, j'espère que vous m'avez bien compris là-dessus, enfin que je ne suis pas ambigu là-dessus, je ne dis pas du tout qu'il faut tout ramener à la situation antérieure. Hein. Absolument
non, vous
pas.
Avez bien compris.
Mais il faut effectivement réglementer ces nouvelles activités pour qu'elles soient soutenables économiquement et qu'elles ne soient pas destructrices. Mais là, le point sur lequel je voudrais insister, c'est que moi, je suis d'accord sur le fait que l'entreprise capitaliste, etc., elle va continuer d'exister et il faut continuer à travailler sur la relation salariale pour la rendre moins despotique. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a toute une série d'activités qui vont se développer en dehors du salariat et qu'il y a tout du salariat classique. Et qu'il y a tout un travail de réglementation, de conception, d'imagination, etc., pour construire une relation de travail qui soit pas basée sur le salariat. Bon, je veux juste rendre hommage ici à Alain Soupiot. Je pense que tout le travail qu'il a fait autour de la notion de droit de tirage sociaux, etc., nous donne une perspective pour construire cette relation de travail en dehors de la grande entreprise.
Oui, avec au-delà de l'emploi, qui vient d'être republié en là récemment.
Absolument.
Avec une nouvelle préface où il a une vision extrêmement lucide des changements en cours.
C'est
donc, il a travaillé dans les années 90 sur ces sujets-là. Donc, je pense que le CPA, par exemple, qui est une espèce de déclinaison aujourd'hui moderne des droits de tirage sociaux, mériterait d'être au centre du débat public
c'est
aujourd'hui.
C'est quoi précisément, juste en un mot
Pardon, le contrat personnel d'activité, voilà, donc qui est une espèce de poche, presque de portefeuille électronique qui est attaché à n'importe quel individu et non plus actif, qui permettrait d'avoir, de concentrer au même endroit les droits à la formation, les droits au congé, les droits à l'entrepreneuriat, pourquoi pas demain une espèce de revenu universel pour pouvoir être justement hors emploi et lancer sa propre activité, et qui aujourd'hui en fait pour le moment est une coquille vide et qui demain pourrait devenir en fait l'ossature de la portabilité des droits qui permettrait de d'effacer en fait cette différence complètement biaisée entre outsiders et insiders qu'on continue à rabâcher alors que la réalité est beaucoup plus complexe. Il y a plusieurs outsiders, il y a plusieurs insiders aujourd'hui. Voilà.
Donc régulation, réglementation, oui. Innovation, oui,
solidarité nationale,
être offensif et réflexion. Réflexion.
Je me permets juste d'insister sur ce dernier point, hein, la contribution de Soupiot, c'est de dire il faut plus que les droits sociaux soient rattachés au seul emploi et emploi salarié. Ouais. Il faut qu'ils soient rattachés à l'activité de travail et à l'activité en général, y compris d'ailleurs au travail domestique, hein, au travail d'utilité sociale qui doit être reconnu, et tout ça doit permettre de charger des comptes qui donnent droit à des prestations sociales. Et ben c'est sûr que c'est de ce côté-là qu'on va pouvoir consolider le type d'économie collaborative dont j'appelle le développement de mes voeux.
Et puisqu'il était question d'innovation, voici le choix de l'équipe pour terminer ce vendredi, le tout nouveau single de Métronomie qui est disponible sur internet depuis le 8 juin, Back Together.
You'd come to lunch with me. I'm sure I'll find some time inside my diary. Now, let's see.
Yeah, Monday looks quite good to me. Monday looks quite good to me too.
Merci beaucoup à tous les deux, Diana Filipova, cofondatrice de WeShare, et Benjamin Coria, économiste et membre des économistes atterrés. Diana Filipova, vous participez à Futur en scène, le festival de l'innovation qui se tient à Paris et dans toutes les villes de France jusqu'au 18 juin, mais pas plus tard que cet après-midi pour les Parisiens et les Franciliens, puisque à 16h, vous serez à la Gaîté Lyrique pour parler de ce néo-salariat notamment. Merci à toute l'équipe de la Grande Table, Raphaël Bourgois, Henri Leblanc, Jeanne Aléos, Clémence Marie et Lucie Aubourg. À la réalisation, c'était Philippe Baudouin. Et à la technique aujourd'hui, Jacques Azubert. Bon week-end à tous.